cannibalisme, ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas le, des choses horribles. Ce n'est pas des choses sales choses. Ce n'est pas le, des criminels, ce n'est pas, pas du tout. C'est une sorte d'expression de l'amour.
Bonsoir, cette voix tremblante, c'est celle d'un cannibale, un homme qui a tué et mangé sa victime tuée pour assouvir une pulsion ancestrale qui se perd dans la nuit des temps. C'est à la demande de plusieurs auditeurs de l'heure du crime que nous avons choisi de raconter cette histoire, l'histoire du japonais cannibale Issei Sagawa. C'était en 1981, en plein Paris, Sagawa tuait et dévorait une amie étudiante, Renée Hartveld, une Hollandaise âgée de 23 ans, 40 ans après, et malgré les aveux de l'intéressé, ses multiples confessions, et en dépit du travail très précis et détaillé des enquêteurs de la brigade criminelle, en dépit aussi des multiples rapports d'experts psychiatres et médicaux, ce crime quasi rituel demeure en grande partie inexplicable. Nous allons donc remonter ce soir avec nos invités, et notamment les enquêteurs de l'époque, le fil des investigations, rouvrir ce dossier judiciaire si étrange et particulier, essayer de savoir bien sûr ce qui s'est passé dans la tête du meurtrier, comprendre aussi pourquoi Issei Sagawa a bénéficié d'une telle mansuétude, autorisé finalement à retourner au Japon où il continue aujourd'hui encore à revendiquer son obsession cannibale et son goût pour la chair humaine, sans oublier que derrière ce criminel, il y a une victime, Renée Hartveld, qui a sans doute été un peu trop vite oubliée.
20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir, dans l'heure du crime, l'affaire du japonais cannibale Issei Sagawa à l'été 1981. Personne ne peut se douter que cet homme effacé vient de commettre le plus délirant des forfaits dans l'intimité d'un appartement parisien. Ce samedi 13 juin 1981, en fin d'après-midi, un taxi s'arrête devant le numéro 10 de la rue Erlanger, une rue tranquille du très chic 16e arrondissement de Paris. Il fait très beau ce jour-là et le week-end dans la capitale s'annonce radieux. Le chauffeur ne tarde pas à voir son client sortir de l'immeuble, un tout petit asiatique qui transporte deux valises en carton bouilli presque plus grosses que lui, posées sur une espèce de chariot à roulettes. L'homme parle français et demande à être conduit au bois de Boulogne. Le chauffeur de taxi est un peu étonné de cette destination. Il s'attendait à transporter son client dans une gare ou un aéroport. La voiture prend donc la route du bois, plus précisément celle du lac du bois de Boulogne, un lieu fréquenté par les pêcheurs et les amoureux, propice aux promenades en barque. Sur place, une fois seul, l'homme traîne ses lourdes valises sur le chariot. Il souhaite les jeter dans l'eau, mais soudain il s'arrête. Il a le sentiment d'être épié. Un jeune couple le regarde. Il tente alors d'aller plus loin, mais sous le poids, l'une des valises s'ouvre. Il ne sait pas trop quoi faire, pousse les bagages dans les buissons. Le couple se rapproche pour lui demander ce qu'il fabrique, mais l'homme ne s'attarde pas, il file rapidement. On va vite savoir ce que renferment les valises en carton bouilli du bois de Boulogne. Du sang, ça n'échappe. Il y a à l'intérieur des espèces de paquets, des morceaux de viande qui ont été découpés. Il ne s'agit pas des restes d'un animal, comme on pourrait le croire, mais de morceaux humains. Un corps découpé et abandonné là en toute hâte par cet Asiatique. La police est immédiatement alertée, la brigade criminelle est rapidement sur les lieux. L'un des premiers à découvrir le contenu des bagages, l'enquêteur René-Georges Kerry, ne peut que constater la présence d'un puzzle humain. Dans tous les cas de figure, un crime d'une grande sauvagerie. Le corps est transporté à l'Institut médico-légal, la morgue judiciaire. La victime est une jeune femme qui semble être âgée entre 25 et 30 ans, la peau très claire, elle mesure un peu plus d'1m60. Elle a été tuée d'une balle de 22 longs rifles dans la tête. Les os des membres inférieurs et de la colonne vertébrale ont été sciés. Des lambeaux de chair sur les fesses, les cuisses et le visage, ici les lèvres et le nez, ont disparu. On ne connaît pas alors la raison de ces manques. Détail sordide, la victime a été violée après avoir été tuée. Une relation sexuelle post-mortem, un cadavre profané. Bonsoir René-Georges Kerry.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes l'ancien numéro 2 de la brigade de répression du banditisme. J'ai cité votre nom dans cette affaire parce que vous allez être un des premiers sur cette scène de crime. Alors évidemment, on est là au tout début, on va raconter l'enquête et puis les révélations qui vont surgir et ce que vous allez pouvoir trouver. Est-ce que vous vous souvenez fatalement de cette journée? Vous êtes appelé tout de suite sur les lieux, il y a une urgence?
Il faut reconnaître quand même que c'est une journée assez exceptionnelle dont on se souvient.
Dans la vie d'un policier, même dans une vie normale.
Oui, Dieu merci, ça n'arrive pas tous les jours, mais effectivement, ce jour-là, j'étais bien qu'étant à la brigade de répression du banditisme, j'étais de permanence pour l'ensemble des brigades du Quai des Orfèvres. Donc en cas de meurtre, j'étais...
C'est vous qu'on sonne, c'est ça?
Ouais, exactement. Alors ce soir-là, d'ailleurs, je me souviens très bien, je regardais la finale de la Coupe de France, c'était Bastia-Saint-Etienne, et je crois que Saint-Etienne avait été battu par Bastia, moi j'étais supporter de Saint-Etienne. Et c'était quasiment la fin du match quand le téléphone sonne. Il faisait très beau, il faisait encore jour, il devait être 10h moins 10, 22h maximum.
Oui, c'est ça.
Et je me rends sur les lieux. Dans le même temps, Ange Mancini, qui était commissaire à la criminelle, mon vieux pote Ange Mancini, est également averti et se rend sur place avec son équipe d'inspecteurs. Et nous nous retrouvons tous là-bas, au Bois de Boulogne, autour du lac.
C'est ça, le lac du Bois de Boulogne.
Le lac du Bois de Boulogne. Et on nous présente deux valises qui ont été découvertes, effectivement, par des passants, des promeneurs. On en trouve un petit peu la valise et on se rend bien compte tout de suite que ce sont des restes humains.
Qu'est-ce que vous voyez à ce moment-là?
Alors, on n'a pas ouvert complètement les valises. On a parfaitement pris conscience que c'était alors arrivé notamment un pied. Je me souviens qu'on avait eu un pied.
Vision tragique.
Oui, mais vous savez, bon, je veux dire, on ne va pas jouer les cyniques, mais on est habitué. Hein. C'est pas la première fois qu'on voyait un Maccabée. Bon.
Et puis, on ne peut pas se douter de ce qui va être dit par la suite, évidemment.
Alors, en réalité, c'est ça. Bon, partir d'un meurtre, quand on est dans des affaires criminelles, avoir un cadavre comme point de départ, c'est un peu la tradition, c'est la logique. Mais effectivement, c'est la suite qui va être bizarre, parce que ce corps est dans deux valises, il est découpé en petits morceaux. Nous, on fait des constatations très rapides, on n'ouvre pas les valises, mais ensuite elles sont prises et elles sont emportées à l'Institut médico-légal, et c'est là que vraiment on a la surprise.
Et c'est là que le spectacle, si je peux dire, le plus sordide, va apparaître. Racontez-nous ce qui se passe à l'Institut médico-légal.
Là, effectivement, à l'Institut médico-légal, on ouvre les valises en présence du médecin légiste, de policiers qui prennent des photos. Tout ça se fait selon une procédure qui va être consignée dans le dossier judiciaire. Et puis, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre le corps d'une jeune femme qui était découpée en plusieurs morceaux. On reconstitue le corps, le bras, les bras, les jambes, mais surtout, ce qui nous choque et ce qui nous surprend, c'est que ce corps a été complètement saccagé.
Mutilé,
mais de façon illogique, irrationnelle. Une partie du visage a été enlevée, une partie de la jambe, notamment du fémur, est complètement dénudée, toute la chair a été enlevée. Une partie du sexe a été découpée, un peu comme dans l'affaire du Dahlia Noir, vous savez, cette starlette qui en 1946 avait été assassinée à Los Angeles, Elizabeth Short, et qui avait eu le sexe découpé, donc on se posait des questions. Les seins avaient été découpés. On ne comprenait pas. La viande, si j'ose dire, pardonnez-moi cette expression, un peu crue, mais la chair était fraîche. Il n'y avait pas de mutilation logique. On se posait la question de savoir si c'était un crime rituel.
C'est ça.
Si c'était un chien qui avait... Mais enfin, après, le chien, il ne va pas découper le cadavre. Hein, ça, c'est...
Et là, vous vous rendez compte, bon, que c'est, effectivement, vous êtes sur la piste d'un crime rituel, en tout cas, quelqu'un de désaxé, Jacques Poinas, à ce niveau de l'enquête, sans aller trop vite.
Je me souviens quand même très bien que Joe Kerry et Ange Mancini, le lundi matin, disent il manque des morceaux, on dirait que des morceaux ont été mangés.
Oui, c'est ça.
Vous
aviez ce pressentiment, c'est ça?
Mais il le disait, je dirais, à moitié de manière hypothétique, mais...
Intuitivement.
Le découpage leur paraissait correspondre à rien d'autre qu'à une consommation de chair humaine.
Donc il y a un acte sadique, de toute manière, qui a été perpétré. Est-ce que vous avez encore une question, Jacques Poinas ou René-Georges Kerry, comme vous voulez? Est-ce que vous avez déjà un signalement de cet homme? Allez-y.
Oui, alors, il y a un élément qui, évidemment, est essentiel pour la suite, c'est que les témoins qui ont vu l'homme qui perd la valise le décrivent clairement comme un Asiatique. Ils ne disent pas précisément un Japonais, mais ils disent c'est clairement un Asiatique.
Petite taille.
Petite taille, Il ne donne pas de signalement très très précis, mais enfin, il est clair qu'on aura un élément qui sera déterminant.
Il a des lunettes, je crois, c'est ça, on dit, il a des lunettes oui, et mais il a le visage grelé.
Oui, il a le visage un peu comme marqué de petites véroles, quoi, comme brûlé. Et on a un signalement qui n'est pas précis, mais qui nous donne, qui élimine quand même beaucoup de monde.
Un appel à témoins va être immédiatement lancé et il va être concluant. Il va conduire au domicile d'un étudiant japonais qui vit en France, le dénommé Issei Sagawa, 32 ans, totalement inconnu de la police et de la justice française. Le chauffeur de taxi qui a déposé l'homme aux deux valises au bois de Boulogne s'est rapidement manifesté auprès de la brigade criminelle. Il a tout de suite fait le rapprochement avec un client chargé le samedi. Il avait été étonné de ce transport inhabituel et se souvient de l'adresse où il avait été appelé, le numéro 10 de la rue Erlanger. Les policiers ont une adresse, mais pour l'instant, aucun nom. Il file sur place et se renseigne. La concierge de l'immeuble confirme que l'un des locataires est bien un Asiatique, plus précisément un Japonais, Monsieur Sagawa, Issei Sagawa. Il habite un studio au premier étage. Elle n'a rien remarqué d'anormal à son sujet. Sagawa n'est pas chez lui, mais les enquêteurs ne vont pas tarder à le voir surgir d'un taxi. L'enquêteur Roger Robillard l'aborde. Sagawa est surpris, il ouvre de grands yeux, mais quand le policier lui demande s'il sait pourquoi on veut lui parler, il marque un temps d'arrêt, puis indique « Oui, je pense que c'est en rapport avec René Hartveld ». Dans le studio du premier étage, les policiers retrouvent les papiers d'identité de la victime, René Hartveld, étudiante néerlandaise, 23 ans. Il y a des taches de sang, en partie nettoyées sur la moquette, et une carabine 22 long rifle posée dans un coin. La suite s'apparente à une macabre et insensée scène de crime. Le réfrigérateur est rempli de petits sacs en plastique renfermant des parties du cadavre. Sur une table, dans des assiettes blanches en carton, des morceaux de chair, pas moins de 7 kilos. Sagawa est calme, il répond poliment et mécaniquement aux questions des policiers du 36. Ces derniers saisissent un appareil photo. La pellicule développée fera apparaître des clichés du Japonais auprès de sa victime. Un terrifiant banquet, puisqu'il avoue l'avoir tué pour pouvoir la dévorer. Les enquêteurs saisissent également un dictaphone. Sagawa a enregistré minute par minute le déroulement de son crime. On y entend la jeune Hollandaise réciter à haute voix un poème de l'allemand Johannes Becher, puis une détonation et un corps qui tombe. Au 36 quai des Orfèvres, les policiers font face au Japonais cannibale. Issei Sagawa, 32 ans, un physique des plus chétifs, 1m52 pour 35 kilos, tellement maigre que lorsqu'on lui a passé les menottes, il les a lui-même resserrées autour de ses poignets rachitiques. Sagawa explique qu'il prépare un doctorat en littérature comparée à l'université de Paris 3. C'est d'ailleurs là qu'il a rencontré René Hartveld, une fille beaucoup plus facile d'accès et souriante que les Françaises, coincées et prétentieuses. Ils ont sympathisé. Elle l'a invité à rencontrer ses amis. Il l'a reçu une première fois chez lui pour déguster une fondue. Il a eu un flash. Il a compris alors qu'il devait la dévorer. Le cannibalisme, un fantasme qui le poursuit depuis des années. Il aurait même proposé sans succès d'acheter un morceau de chair à une prostituée. Après s'être décidé à passer à l'acte, il a invité René Hartveld une nouvelle fois à rue Erlanger pour qu'elle lui lise un poème en allemand pour ses cours de fac. Il est passé derrière elle et lui a tiré une balle dans la tête. Jacques Poinas, enquêteur à l'époque à la brigade criminelle, là vous êtes sur les lieux du crime ce jour-là, ce lundi dans le studio de la rue Erlanger. Qu'est-ce que vous voyez? Quel est le spectacle qui est devant vos yeux?
Alors, si vous me permettez, je me permettrai d'abord de rectifier, car dans cette affaire, toujours... Il est dit que c'est un chauffeur de taxi qui a été, je dirais, l'élément qui a permis de localiser Sagawa, puis de l'identifier. En réalité, non. Le premier témoin à nous avoir amené sur Sagawa, c'est un aspect les plus extraordinaires de cette affaire, à la fois tragique et comique. C'est que cet élément, en tout cas, a des aspects, je dirais, tragicomiques. C'est que donc, en réalité, nous sommes appelés par une dame habitant 10 rue Erlanger qui nous dit « J'ai vu les photos des valises dans la presse. J'ai vu ces valises, je crois avoir vu ces valises, dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est-à-dire alors que le corps est retrouvé le samedi seulement. Il y a un Japonais qui habite le bâtiment Surcourt dans notre immeuble. Et mon mari, qui est accordeur de piano et qui est aveugle, m'a réveillé en me disant « j'entends un bruit métallique dans la cour ».
Ah oui, donc il y avait cette espèce d'alerte.
Dans la cour. Et je suis allé voir à la fenêtre, et effectivement, dans la cour, j'ai vu le Japonais qui poussait un caddie avec deux grosses valises. Car en fait, Sagawa avait fait une tentative dans cette nuit, interrompue par une patrouille de police qui le voit avec le caddie et qui interpelle le taxi et son client en disant « vous n'avez pas le droit d'emporter ce taxi, il appartient au supermarché, allez le rapporter au supermarché ».
Ah oui, c'est ça, donc il se fait finalement arrêter.
Il se fait contrôler par la police.
Pour cette histoire de caddie.
Parce qu'il a chargé dans le taxi ce caddie dont il a besoin par la suite. Mais évidemment, les policiers ne vont pas faire une affaire de vol pour un caddie, mais ils le réprimandent et ils lui disent « vous allez tout de suite rapporter ce caddie », ce qui fait que Sagawa va déposer le caddie avec le taxi. Et il rentre chez lui et remonte les valises à son domicile et se fait repérer par l'accordeur de piano.
Et il a de la suite dans les idées puisqu'il va effectivement redéposer ses valises au bois de Boulogne. Voilà. Alors René-Georges Kerry, peut-être dites-nous ce spectacle d'horreur dans cet appartement, ça se présente comment? Quelle est la scène où Jacques Poinin, en quelques mots,
l'appartement est tout petit, c'est un studio. Il n'a pas de caractère particulier, sauf qu'il y a quand même une tache qui a été lavée, mais on devine une tache de sang
grossièrement lavée.
Et puis, si vous voulez, nous avons cette idée de la possibilité qu'il en ait mangé. Mais il ne dit rien là-dessus, nous ne le questionnons pas tout de suite. Nous visitons l'appartement, nous trouvons les éléments que vous avez évoqués. Il y a un grand frigo, nous l'ouvrons, il est vide. Nous terminons pratiquement la perquisition, mais vous savez, à la fin d'une perquisition, bon, on ne sait plus très bien, on a vu le frigo, il est vide, mais on fait tous les placards par acquis de conscience un peu, ou sinon, pour faire correctement la perquisition. Et il y a un petit frigo encastré, donc, que nous n'avions pas repéré au départ comme frigo, et en l'ouvrant, donc là, nous voyons qu'il est plein de sacs plastiques bleus, avec de la chair dedans, et une assiette avec des morceaux coupés.
Découpés,
comme dans la cuisine asiatique, avec un peu de moutarde sur le bord. Et là, c'est de la viande cuite.
Ah, donc là, on touche.
Donc
quand même
là, on lui dit alors, tu en as mangé? Et il fait oui.
Il reconnaît tout de suite qu'il en a mangé. Mathieu Frachon, auteur spécialiste police-justice, bonsoir. Merci d'avoir répondu vous aussi présent à l'invitation de l'heure du crime. Dernier livre paru, Les Dessous du 36 aux éditions du Rocher. Vous connaissez parfaitement cette histoire que vous avez déjà racontée. Dites-nous en quelques mots, j'ai parlé de cet appareil photo retrouvé chez lui, il y a 39 photos. Il s'est mis en scène?
Il s'est mis en scène en train de manger. Je parle sous le contrôle de ceux qui ont vu ces photos-là. Parce que moi, j'ai vu certaines photos du dossier quand je préparais un livre sur l'histoire de la crime. Je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est pas tellement les photos. Moi, j'aurais donné beaucoup pour écouter la bande son. Parce que je trouve ça absolument.
Elle est glaçante.
Voilà, les enquêteurs de l'époque, certains que j'avais croisés, m'en ont parlé, m'ont dit que c'était absolument.
René-Georges Kerry, vous l'avez écouté cette bande-son?
Oui, bien sûr, on l'a écouté. Alors, si vous voulez, c'est assez impressionnant parce qu'on sent cette jeune femme en toute confiance qui récite le poème. On sent qu'il y a une ambiance, je dirais, amicale, chaleureuse. Et puis, soudain, il y a un bruit sourd, le bruit, la voix qui s'arrête net. Et ensuite, le bruit sourd du corps qui tombe sur le sol.
Ça, c'est très clair.
Et ça, je dois reconnaître que, s'agissant de toutes les affaires criminelles, on en a vu des images choc, mais là, en l'occurrence, le son, cette scène, on vit en direct l'assassinat de cette jeune femme dans une ambiance d'amitié, de complicité. Et ça, c'est vraiment très impressionnant.
Le crime d'Issei Sagawa n'est pas un crime ordinaire. Il est et va rester une source d'interrogation pour les policiers et le juge d'instruction désigné pour piloter l'enquête. Lors des auditions, Issei Sagawa ne fait pas mystère de son obsession de manger de la chair de femme. Selon lui, il s'agirait là d'une preuve d'amour ultime. Il semble plutôt satisfait d'avoir pu assouvir cette passion charnelle. Il peut en plaisanter même devant le commissaire Olivier Folle. Il indique « Vous dites bien en France qu'une femme est à croquer ?» Le policier lui répond « Oui, on dit ça, mais généralement on croque quelqu'un avec un crayon, pas avec une casserole. » Issei Sagawa ne semble pas mesurer la portée de son acte, ou alors joue-t-il peut-être la comédie. L'homme est lettré, intelligent. Au fil des interrogatoires avec les policiers et avec le juge Jean-Louis Bruguière, puis à travers les interviews qu'il donnera, se dessine un portrait disparate. Issei Sagawa est né le 26 avril 1949 à Kobe, au Japon. C'est un fils de famille. Son père est un puissant, très riche industriel. Il a toujours eu un physique malingre et désavantageux, de quoi le rendre solitaire et complexé. Lors de ses premières déclarations, il dira d'ailleurs, comme pour justifier son acte injustifiable, que René Hartvelt s'est moqué de lui, ce qui l'aurait convaincu de la tuer et d'assouvir son envie de manger. Il cultive ce fantasme depuis de nombreuses années, obsédé par la chair des Occidentales. Il raconte ainsi avoir fait une fixation sur la blonde actrice Grace Kelly. Sagawa a failli passer à l'acte un an auparavant, au Japon, dans la ville de Kamakura. Ici, il avait repéré un jour une jeune Allemande portant une mini-jupe. Il va la suivre, noter son adresse. Durant des jours, il lui emboîte le pas dans les transports en commun. Il dit avoir senti alors en lui l'irrépressible envie de la dévorer. Une nuit, il se décide. Il rentre chez elle par une fenêtre, pénètre dans la chambre où la jeune fille dort. Il est armé d'un parapluie et d'un couteau. L'Allemande ne doit son salut qu'à son réveil en sursaut et au cri qu'elle pousse. Sagawa prend la fuite, mais il est arrêté par la police. Son père convainc alors la jeune femme de ne pas déposer plainte, moyennant une grosse somme d'argent. Le dossier est classé. Pour éviter tout scandale, Issei Sagawa est envoyé à Paris, où il poursuivra ses études. Sagawa a raté son coup au Japon, mais cette fois il est donc bel et bien passé à l'acte. Il assouvit son désir de cannibalisme. Au lendemain de son arrestation, il déclare « Je voulais sentir l'existence de René, goûter à son goût ». Le juge Bruguière le fait écrouer à la prison de la Santé. Il y passera 21 mois, puis à l'hôpital Henri Collin à Villejuif, 14 mois, le temps de statuer sur son état mental. Mathieu Frachon, journaliste et auteur des Dessous du 36 aux éditions du Rocher, j'ai brièvement brosser le portrait d'Issei Sagawa. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce personnage?
D'abord qu'il est extraordinaire, au premier sens du terme. C'est une affaire absolument exceptionnelle. On n'est pas du tout dans un crime qui va mettre du temps à être résolu. En trois jours, c'est plié. J'allais dire, ça n'aurait pas dû quitter les pages intérieures du journal. Sauf que c'est exceptionnel. Un cannibale à la fin du XXe siècle, en plein Paris. Je dis pas c'est du pain béni pour des journalistes parce qu'on va encore me traiter de tous les noms, mais c'est la vérité. Pour un criminologue, pour un journaliste ou même pour un policier qui a l'amour de son métier au-delà,
oui, exceptionnel.
C'est exceptionnel.
On est effectivement dans quelque chose de hors norme. On est d'accord.
Totalement. La personnalité de ce type, malingre, complexé, avec un père surpuissant capable de casser n'importe quelle affaire au Japon. C'est aussi encore autre chose.
Qui plus est, Mathieu Frachon, il revendique, lui, son espèce de penchant pour le cannibalisme. Il en fait même une espèce d'histoire culturelle pour lui.
C'est... Pourquoi ne le ferait-il pas? Après tout, il est venu en France aussi un peu pour ça. Même s'il est exfiltré du Japon par prudence, enfin, le père était quand même d'une prudence toute relative. C'est un peu envoyé, si j'ose dire,
c'est mettre le couvercle
envoyer au Bocuse dans une famille, voilà, dans une fabrique de foie gras,
sur une marmite qui peut déborder. Jacques Poinas, vous me faites des signes, vous voulez
Oui, non, simplement parce que j'ai trouvé
enquêteur à la brigade criminelle à l'époque,
lors de ses auditions, puisque j'ai pas mal parlé avec lui. Lors de sa garde à vue, il était humble, il ne plastronnait pas, comme il a pu plastronner par la suite dans des interviews.
Bien sûr.
Au Japon, quand il est rentré au Japon, où il était odieux dans la manière dont il évoquait cette affaire, sans aucune pensée pour la victime, pour la famille de la victime. Pendant sa garde à vue, il était humble, il reconnaissait. Sur les motivations exactes, il n'a jamais été tout à fait clair. Il a effectivement prétendu qu'elle s'était moquée de sa laideur. Donc c'était qui pouvait être une sorte d'excuse, relative, mais une sorte d'excuse, etc. Mais effectivement, après, il a délibérément voulu faire au Japon de son crime une affaire littéraire.
Oui, tout à fait.
Presque artistique, on va dire même.
Oui, c'est ça. C'est une espèce de d'art, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets. Oui, hein, d'art non, d'artiste du crime, hein, mais je mets beaucoup, beaucoup de guillemets. René-Georges Kéry, quel est cette quel est l'homme que vous avez en face là, lors de ces gardes à vue là, qu'est-ce qui ressort de ce personnage? Comment vous le sentez, vous?
Bon, simplement, on a affaire quand même à un individu, bon, évidemment, hors norme. On voit, alors déjà physiquement, il est quand même très, très particulier. Il a même, je crois, il est un peu victime d'une maladie. Il a dû avoir une maladie qui a arrêté sa croissance et il est très, très replié sur lui-même. C'est effectivement, c'est une espèce d'extraterrestre d'une certaine façon. Il vient de je ne sais où et surtout, par la suite, lorsqu'il retourne au Japon, il va souvent à l'Alliance française, il va essayer de retrouver les services culturels de l'ambassade de France, il s'intéresse à la cuisine, enfin il y a quand même quelque chose...
C'est troublant.
De totalement...
C'est déroutant.
Irrationnel, c'est surréaliste comme personnalité et comme comportement.
Il parle français? Vous avez un interprète ou comment ça se passe?
La première audition a été faite sans interprète. Parce qu'il parlait suffisamment. Et nous, c'était en pleine nuit, puisqu'il est arrêté à 9h05. Nous faisons la perquisition jusqu'à minuit et il est entendu à la suite
très
de la
rapidement,
dans la
tout, tout de suite. Dans
la première audition est faite en français sans interprète parce que nous ne pouvions pas trouver d'interprète à ce moment-là, évidemment, en pleine nuit. Et il parlait suffisamment français pour être entendu valablement en français. Hein, c'est des études quand même de littérature comparée à la Sorbonne, donc son français était quand même correct.
Oui, correct.
Voilà, mais. Il parle bien, c'est un garçon intelligent, mais c'est un mystère. Quoi, c'est
ouais. Mathieu Frachon, il raconte comment il a rencontré sa victime, c'est ça, à la fac, c'est ça,
hein? Oui, il la rencontre à la fac, il est, et effectivement, il insistera beaucoup sur le côté extrêmement pénible et hautain des Françaises. Il va même dire à un moment dans une interview, j'aurais bien aimé déguster une Française, ça m'aurait permis un peu de la rabaisser, de la mettre à sa place. Il a aussi cette vision qui est très, très ancrée dans une certaine société japonaise à l'époque de l'homme un peu dominateur. Et de l'homme dominateur, quand on fait 1m42, c'est pas évident,
C'est pas facile. Hein.
Et il a ce complexe et cette envie de dominer.
Alors, je l'ai rapidement évoqué, mais il faut quand même le redire, c'est qu'il a violé post-mortem sa victime. C'est un cannibale, mais c'est aussi un violeur, ce qui
c'est
rajoute...
C'est très rare chez les cannibales, voilà. C'est des cas extrêmement rares. C'est le violeur, le cannibalisme en matière de criminologie, cannibalisme, ça va aller mieux en le disant comme ça, le cannibalisme qui se double d'un crime sexuel, c'est extrêmement rare. C'est vraiment un cas extraordinaire, exceptionnel, comme le disait tout à l'heure Joe Kerry, sur cet aspect de ce criminel-là. Quoi,
c'est ça. René-Georges Kerry, juste encore un petit mot. Comment vous le percevez-vous? Vous pensez qu'il est fou, ce Sagawa, quand vous l'écoutez?
Enfin,
il est sûrement fou, on est d'accord.
On s'imagine toujours le fou avec une espèce d'entonnoir sur la tête, se déguisant en Napoléon, marchant tous les côtés, tenant des propos incohérents. En réalité, il a un comportement de l'extérieur parfaitement normal, mais la nature de ses actes le fait basculer évidemment de l'autre côté du miroir chez les gens complètement cinglés, quoi, c'est clair.
Une bataille judiciaire va très vite s'engager sur le cas Issei Sagawa avec cette question centrale. Un cannibale a-t-il toute sa raison ? Le juge Jean-Louis Bruguière veut tout savoir du passé et de la personnalité d'Issei Sagawa. Muni d'une commission rogatoire internationale, le magistrat, accompagné de policiers de la crime, se déplace jusqu'au Japon. Les enquêteurs visitent ici les villes où le cannibale a séjourné au fil de ses études. Tokyo, Kyoto, Osaka, Kobe. Il est établi que Sagawa a toujours été un garçon des plus fragiles. Il aurait même été déclaré mort-né à sa naissance en 1948, 20 minutes sans respirer, ce qui aurait eu des conséquences sur sa croissance. Il va rester un garçon chétif, un gringalet. Son entourage affirme encore qu'à l'âge de 2 ans, l'enfant a contracté une encéphalite, un mal qui l'aurait cérébralement affaibli. Il aurait eu des séquelles, de quoi peut-être expliquer ses obsessions mentales. Les proches du criminel semblent pencher pour une altération de son jugement. Il n'était pas dans son état normal lorsqu'il a tué la jeune Hollandaise. Le juge d'instruction s'entoure d'un collège de 3 experts psychiatres, médecins aliénistes, des experts de la démence. Après des mois d'études, les docteurs Serge Brion, Alain Diederich et Bernard Defer estiment que Issei Sagawa n'est pas en mesure d'être jugé. Le 30 mars 1983, moins de 2 ans après le crime, Jean-Louis Bruguière rend une ordonnance de non-lieu. La famille de la victime et en premier lieu son père, Johann Gisbert Hartveld, va tout faire pour renverser la vapeur et obtenir un procès pour Issei Sagawa. La famille dénonce de fausses informations sur l'état de santé réel du Japonais. On a voulu faire du meurtrier de ma fille un dément et un total irresponsable, en affirmant par exemple que ce jeune homme chétif avait été cérébralement traumatisé dès le jour de sa naissance suite à un accouchement difficile. Dénonce le père de René, selon lui, le médecin accoucheur a témoigné et indiqué qu'aucune séquelle n'avait été notée après la naissance. L'encéphalite, quant à elle, serait une invention, le médecin de la famille Sagawa n'ayant jamais été informé de cette maladie. 3 médecins qui l'ont examiné ont déclaré qu'aucune trace d'encéphalite ne pouvait être décelée chez ce patient. La famille Hartveld s'étonne de savoir comment un homme si fragile psychologiquement aurait pu faire des études aussi poussées. Malgré le dépôt de recours, les Hartveld ne vont pas avoir gain de cause. Ils vont même se voir refuser une contre-expertise médicale. Issei Sagawa, au nom de l'article 64, ni crime ni délit lorsque les faits ont été commis en état de démence. Sagawa est déclaré irresponsable, pas de procès. Encore quelques mois de soins en France, puis il sera renvoyé au Japon, où là non plus, il ne sera pas jugé. Mathieu Frachon, la question centrale, et puis on va continuer à la poser avec nos invités ce soir de l'heure du crime. La question centrale, est-ce que Sagawa est totalement dérangé? Est-ce qu'il était vraiment en démence au point de ne pas être jugé?
Écoutez, le journalisme ne mène pas à la psychiatrie, mais toutefois, je dirais qu'à mon humble avis, non. Il faut pas oublier un truc. Il y a un cadre juridique à l'époque. Le cadre juridique, c'est l'article 64 qui stipule « ne peut être jugé et reconnu responsable des faits quelqu'un qui est en état de démence au moment des faits ». Or, sur tous les éléments de l'enquête, et là j'ai les deux experts à côté, sur tous les éléments de l'enquête, il n'est pas du tout dément au moment des faits. Il n'est pas fou. Qu'il souffre de pathologie mentale, qu'il souffre, qu'il ait ce qu'on peut s'appeler des circonstances atténuantes, en tout cas.
Une névrose, évidemment.
Qu'il doive être soigné en même temps qu'il est emprisonné, ça ne fait de doute pour personne. Qu'il y ait eu des pressions pour que...
Alors on va en parler, ça, de sa dépression, parce que... On va en parler
juge Bruguière, c'est pas trop le genre, hein, c'est l'amiral, comme on le surnomme, c'est pas vraiment le genre. Donc ça me surprendrait un peu. Mais peut-être. En tout cas, pour moi, il n'est pas fou.
Les enquêteurs, René-Georges Kerry, Jacques Poinas, vous étiez sur l'affaire à l'époque. J'aimerais avoir votre sentiment. Alors, 40 ans se sont déroulés maintenant. Les langues peuvent se délier facilement. Allez-y, Jacques Poinas.
J'ai vécu pendant, je dirais, tous les mois, puisque après son arrestation, il y a eu des compléments d'enquête, la mission d'Olivier Faure au Japon. J'ai suivi tout ça. D'abord, je dirais que j'exclurais totalement l'idée qu'il y aurait eu une négociation pseudo-diplomatique entre le Japon et la France.
Alors ça, c'est ce que dit la famille Hartveld.
Oui,
Ils disent qu'il y a eu des pressions, etc., économiques. Non, vous ne pensez pas.
Non, ça n'est pas possible. Ce sont les experts. Alors il faudrait admettre que les 3 experts psychiatres français ont été achetés. Ou on subit des pressions gouvernementales pour déclarer quelqu'un irresponsable. Non, ça ne tient pas. Franchement. D'autant plus que le Japon était honteux.
C'est vrai. C'est-à-dire,
les Japonais étaient honteux de cette affaire et ils n'avaient pas du tout envie de défendre Sagawa. Ce qui s'est passé, c'est, je crois, un problème de différence d'école psychiatrique entre le Japon et la France. C'est-à-dire que si l'on admet qu'il était fou, les Français ont raison, et les experts japonais, après son expulsion, auraient dû le reconnaître également dément, dangereux, et l'enfermer de longues années en hôpital psychiatrique.
Ce qui ne sera pas le cas.
Sauf qu'il y a des différences, je dirais, d'école psychiatrique entre le Japon et la France.
Oui, là on rentre effectivement dans des nuances compliquées.
Si vous voulez, je crois qu'il n'y a pas d'autre chose à chercher. Je l'ai vu, le père Sagawa. Il a fait une tentative de suicide. Je lui ai parlé. C'était un homme effondré, mais c'était quand même un homme digne.
Le père d'Issei,
je l'ai entendu. Ouais.
Ouais. Ils sont venus en France.
Bien sûr, le père est venu. Il avait un bureau, sa société avait un bureau à Londres. C'était une grosse société de traitement des eaux. Et il est venu dans les jours qui ont suivi.
Je crois que ce qu'on dit d'ailleurs, c'est qu'il est rentré au 36 avec beaucoup d'arrogance au départ.
Oui, parce qu'il ne connaissait pas la
France. Et il en est ressorti effondré.
Absolument. Je l'ai vu s'effondrer au fur et à mesure qu'on lui disait ce qu'on pouvait lui dire sur ce qu'avait fait son fils. C'était un homme âgé qui s'effondrait, mais visiblement, à chaque fois qu'on lui disait il a tué, il a violé, il a dévoré le corps. Imaginez, il faut le dire.
Et d'ailleurs, il démissionnera de son poste. C'est un PDG très important.
C'est une honte pour la famille, terrible, pour la société et pour toute la société japonaise.
Et pour la société japonaise.
Le cannibalisme, il n'y a aucune tolérance pour le cannibalisme dans la société japonaise.
René-Georges Kerry, je vais vous citer un autre expert qui n'était pas dans le trio d'experts que j'ai mentionné, mais qui attendait peut-être de pouvoir faire une contre-expertise. C'est le docteur Giraud, à l'époque, c'est un psychiatre marseillais. Alors lui, il va dire une chose très simple, il va dire « Sagawa, c'est un manipulateur ». C'est un pervers sexuel. Il ment, il se couvre en faisant croire qu'il est complètement parti dans des délires. En fait, il a cette obsession meurtrière en lui. Qu'est-ce qu'on peut en penser de ça? Vous avez senti quelqu'un qui trichait quand il vous parlait ou...
Alors, tout d'abord, je voudrais revenir sur la personnalité de Baudelaire et reprendre une citation de Malraux qui disait « Juger, c'est manifestement ne pas comprendre, parce que si l'on comprenait, on ne jugerait pas ». Et cette phrase montre bien l'isolement du juge, du magistrat, quand il a décidé, surtout quand il est seul, le juge d'instruction est seul. Moi, je connais Baudelaire depuis 40 ans. Ce n'est pas le genre de magistrat à subir des pressions. Quand je dis dépression,
on est d'accord.
À une quelconque demande de quiconque. Il prend ses décisions vraiment avec beaucoup d'objectivité. C'est un magistrat courageux, déterminé. Donc je ne le vois pas, moi, le remettre en liberté pour faire plaisir à quelqu'un.
C'est ça.
Après, il y a le problème, effectivement, de ces psychiatres. Les trois qui ont considéré qu'il était irresponsable. Et puis celui que vous venez de citer. Moi, je pense, avec le recul, que s'il n'était pas dément au moment des faits, il était quand même largement responsable. Responsable et coupable. Et sa remise en liberté, avec le temps, me choque. On aurait dû au moins le faire passer devant la cour d'assises.
3 ans après son arrestation, Issei Sagawa est donc de retour au Japon. Vêtu d'une redingote noire, il débarque à l'aéroport Tokyo Narita, arrivée discrète pour un homme qui ne va cesser de s'afficher et confier ses envies cannibales. Revenu chez lui, Issei Sagawa est interné d'office à l'hôpital Matsuzawa de Tokyo. Il ne va y séjourner que 14 mois. Son avocat français, Philippe Lemaire, explique alors qu'il ne sera pas jugé dans son pays car il est confirmé que son tracé encéphalographique est perturbé et qu'il existe bel et bien des traces de maladie mentale. Issei Sagawa, dont le richissime père a démissionné de son poste de PDG à cause de la honte causée par le crime, est libre. Il s'installe dans un petit appartement de Yokohama, puis dans la banlieue est de Tokyo. Il ne va cesser de donner des interviews, participer à des shows télévisés et même à des films pornographiques. Il publie une douzaine de livres scabreux sur son histoire. Son visage sera utilisé également pour une campagne publicitaire pour une chaîne de restaurants spécialisée dans la viande. Sagawa semble se complaire dans cette célébrité, même s'il dit ne pas l'avoir désirée. Peu ou pas de mots pour René Hartevelt, sa victime. « J'ai commis un crime atroce et le remords envahit mes nuits », déclare-t-il un jour sans vraiment convaincre. Au fil des années, Issei Sagawa va continuer à mener une existence solitaire. Il écrit et peint des femmes aux muscles déchirés. « C'est au CP que j'ai pensé pour la première fois que les cuisses d'une camarade de classe feraient un bon goûter », raconte cet homme qui n'a jamais cessé d'être poursuivi par son idée fixe. « Cet acte était une obsession, il fallait que je la commette. C'est en cela que je suis malade », affirmait encore récemment le cannibale de Paris. Bonsoir Renaud Girard, merci d'avoir accepté pour quelques minutes dans l'heure du crime cette invitation. Vous êtes journaliste au Figaro. Je voulais vous avoir très vite, mais je voulais qu'on vous entende car vous avez rencontré Issei Sagawa au Japon il y a quelques années. Quels souvenirs en gardez-vous ?
D'abord, il m'a fait. J'ai eu très peur, j'avoue, quand il a ouvert la porte, là, tout d'un coup, j'ai vu cette espèce de fantôme s'avancer vers moi, dans le jardin d'un pavillon, dans une rue sombre de Tokyo, dans une sorte de maison, dans des arbres, comme ça. Une silhouette chétive, en robe de chambre encore, a ouvert la porte, furieux d'être dérangé. Il m'a même pas fait entrer dans l'espèce de pavillon où il habitait. Il était tellement chétif, je dirais, il avait un physique un peu malsain. Que ça faisait peur, en fait.
Ça faisait peur, mais qu'est-ce qui vous a pu vous raconter sur son crime, Sagawa ?
Je lui ai parlé, mais je n'avais pas trop le droit de revenir sur l'épisode du cannibalisme qu'il avait habilement utilisé pour sa carrière littéraire. C'est-à-dire qu'en fait, il se tenait toujours à la lisière de l'apologie de crime. Il était étrange, il était à la fois, je dirais, tourmenté par son crime, tout en l'utilisant de manière littérairement. Il se prenait pour un grand homme de lettres. Il avait quand même réussi à obtenir le prix Goncourt japonais.
Alors, il ne pouvait donc pas tout vous raconter, Renaud Girard, mais Sagawa, mais il vous a dit qu'il avait des remords à un moment donné ?
Oui, il avait écrit au président Mitterrand pour lui demander pardon. Il écrivait toute la nuit, c'était vraiment un caractère littéraire. Et il ne cessait pas d'importuner aussi la pauvre famille de cette Hollandaise en lui demandant d'aller prier sur la tombe de son ancienne maîtresse. Peut-être pour exorciser, si vous voulez, les souvenirs de ce crime et tout ce qui tournait autour de ce crime. Il arrive souvent qu'on prenne la plume pour vider toutes les mauvaises pensées, les remords, les cauchemars qui vont avec l'acte criminel.
Mathieu Frachon, il a 71 ans aujourd'hui, Sagawa. Il vit toujours au Japon. C'est toujours une star là-bas de documentaires, de livres, ou bien son étoile a un petit peu pâli, si je puis dire.
Il est un peu has-been, sans clair, mais... On est aussi dans une société japonaise qui a beaucoup évolué, qui a beaucoup bougé. Et puis, finalement, Sagawa, il est représentatif de toute cette fascination humaine pour le mal. De même qu'il y a des gens qui écrivent qui écrivent tous les jours à des tueurs en série. Je crois que Guy Georges reçoit des dizaines de lettres par semaine de gens même de femmes qui lui proposent de l'épouser. Ce qui peut nous paraître délirant. Il y a toujours cette sorte de fascination.
Une attraction morbide, tout
simplement. Voilà, et lui, il en a joué aussi. Et en plus, il l'a utilisé pour sa carrière, ce que dit très bien Renaud Girard. Il l'a utilisé pour sa carrière, il l'a utilisé tant qu'il a pu vendre cette image, il l'a vendue. Bon, aujourd'hui, c'est un vieux cannibale de 71 ans qui n'a jamais récidivé, c'est pas une raison, mais qui, à mon humble avis, aujourd'hui serait jugé. Compte tenu de l'arsenal juridique, législatif, moderne, je pense que c'est quelqu'un et des progrès de la psychiatrie aussi.
Oui, ça c'est un regret que je perçois chez vous, nos trois invités ce soir, le fait qu'il n'ait pas été jugé.
Ne serait-ce que pour la famille.
Bien sûr, ne serait-ce que pour apaiser la douleur de la famille, c'est très important. Il fallait qu'il comparaisse à un moment donné devant une cour d'assises. Je crois qu'effectivement, je partage tout à fait votre sentiment, aujourd'hui il serait jugé, Sagawa. René-Georges Kerry, il voulait être célèbre quelque part, Sagawa. J'ai envie de dire, c'est une obsession chez lui de briller, de se faire remarquer. Il a eu son heure de célébrité, comme disait Andy Warhol, son quart d'heure.
Il a son petit quart d'heure de célébrité. C'est manifestement une forme de narcissisme exacerbé, c'est clair, dans son comportement. Il y a toute la perversion, ses obsessions sexuelles depuis l'enfance, tout ce que vous avez pu rappeler. Mais il est vrai qu'il y a aussi ce côté pervers, narcissique, polymorphe. Et là encore, avec le temps, je regrette qu'il n'ait pas été jugé, parce que une cour d'assises aurait permis d'ouvrir un débat, de faire venir beaucoup d'experts, des témoins. Les gens donnent un jugement. C'est quand même une juridiction populaire.
Bien sûr.
Un débat avec les avocats, un débat avec le parquet. Vraiment, je crois qu'on est passé à côté de quelque chose, là.
Jacques Poinas, vous partagez ce point de vue ? Il aurait dû être jugé ?
Je crois qu'il aurait... Oui,
ça aurait facilité la compréhension.
Je suis persuadé qu'aujourd'hui, il serait jugé. Je pense que la psychiatrie a évolué, la psychiatrie pénale en tout cas.
Tout à fait.
Je dirais aussi que dans sa personnalité, je crois qu'il ne faut pas oublier le fait que il avait déjà une ambition littéraire et D'un autre côté, il a souffert visiblement beaucoup de son physique, disgracieux.
C'était une frustration.
Il y avait également chez lui, je dirais, une espèce de revanche sur ce fait-là. Et le fait qu'il s'en soit pris à une jeune fille qui était, je dirais, physiquement très, très épanouie.
Oui, et heureuse. Et
quelque chose qui, à mon avis, a un sens également.
Encore un petit mot, René-Georges Kerry. Évidemment, et avec Jacques Poinas, vous avez rencontré la famille de la victime. Hein, Jacques
oui,
Poinas,
le frère,
les Artevel,
les frères,
la
les
famille
frères,
Artevel.
Crois,
voilà.
Les frères. J'ai pas vu le père.
Ils étaient comment? Ils étaient dévastés.
Écoutez, bon, nous avons l'habitude dans la police d'annoncer des mauvaises nouvelles. Mais quand ça a été mon cas, quand nous avons été obligés de j'y étais. Quand nous avons reçu la famille, donc je crois que c'était un ou deux frères, je me souviens plus exactement, et un ami. Il y avait déjà des choses qui étaient sorties plus ou moins dans la presse, et nous avons été obligés de dire ce qu'avait subi leur sœur, et ce qu'avait subi le corps de la sœur, de leur sœur. Et je dois dire que
c'est terrifiant.
C'est terrifiant à dire. Bon, annoncer la mort, c'est une chose. Annoncer des choses pareilles, c'est.
Merci beaucoup, Jacques Poinas, René-Georges Kerry, les enquêteurs de l'affaire Sagawa, et puis Mathieu Frachon, journaliste, Renaud Girard, journaliste, d'avoir été les invités de l'heure du crime ce soir avec le japonais cannibale Issei Sagawa, dont on regrette vraiment qu'il n'ait pas été jugé. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir avec nous cette heure du crime.